Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka anta al-alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wa ahlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, qui nous permet de consacrer 20 minutes, 25 minutes, après la salat al-Isha, pour étudier la vie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comme annoncé dans les derniers programmes, on peut se rapprocher un peu. Comme annoncé dans les derniers programmes, durant ce mois de Rabi'ul Awwal, on va consacrer tous nos programmes, on va remplacer l'école de tafsir, de aqidah, par l'étude de la vie du prophète alayhi salat wa sallam, c'est-à-dire le programme qu'on fait normalement à Montreuil. Allah barik fi. Ce qu'on est en train de voir, Le chapitre où on s'était arrêté la dernière fois, c'était les tentatives des Quraysh pour contrer la da'wa de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mardi dernier, on avait vu un premier point. L'auteur a, on va donner ce titre, hein, la dérision, la dépréciation et la négation. Non, c'est une thématique qu'il introduit en expliquant que les Quraysh s'étaient mis d'accord pour qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, de sorcier, de personne dangereuse qui vise à fracturer les liens au sein de la société, séparer les pères de leurs fils, les membres d'une même famille, et donc énormément d'accusations, bien sûr, toutes mensongères. Et on avait expliqué à travers différents versets. Et ce qu'on avait surtout retenu comme leçon, tu étais là la dernière fois, c'était le comportement exemplaire de notre prophète alayhi salatu wassalam face à ses accusations, face à ses mensonges et face aux propos qui le blessaient, qui le touchaient profondément. Mais il mettait en avant la noblesse de sa prêche, la recherche de la guider des gens, la recherche du contentement d'Allah en premier, bien sûr. Et il se mettait, lui, après tout ça. Il ne mettait pas en avant son honneur, le respect qu'il devrait avoir envers lui aucunement. Il mettait en avant la noblesse de sa mission, inviter les gens vers Allah Rabbul Izza. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a fait preuve d'une patience exemplaire. Certainement, la patience la plus exemplaire de l'histoire des prophète alayhi salatu wassalam. Et à chaque fois qu'on avait énuméré des exemples à travers les versets, on s'était posé la question: comment est-ce que nous on aurait réagi face à de telles accusations? Et on mettait en avant, on expliquait comment était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et le dernier point qu'on avait cité mardi dernier, c'était les nouveaux musulmans, les convertis, les reconvertis comme on les appelle, qui étaient issus de familles modestes. Les nouveaux musulmans qui étaient issus de familles modestes. Alors là, c'était le plus dur. C'était ça le plus compliqué pour eux, parce que les Quraysh les faisaient payer très cher leur acceptation de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et ils se moquaient de la condition en disant qu'au Muhammad, tu as réuni autour de toi des pauvres, des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec toi, des gens qui n'ont pas une lignée noble, alors que nous, si on voulait, ben voilà, on aurait accepté, mais on voit que ta da'wa, ta prêche, elle n'est pas correcte. Et les croyants se raccrochaient aux promesses d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est un verset qu'on avait oublié de citer la dernière fois. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Que ces personnes-là se moquaient ouvertement. Ils essayaient d'humilier, de ridiculiser les personnes qui avaient accepté l'islam. Et comment est-ce que les croyants trouvaient la force et le courage? C'est lorsqu'Allah Rabbul Izza annonce à la fin de la sourate: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْمَ الْيَوْمَ بِمَعْنَا يَوْمَ الْقِيَامَ. C'est-à-dire le jour du Qiyama, la situation sera totalement inversée. C'est-à-dire dans ce dunya, ces gens se moquaient des croyants. Mais le jour de Qiyamah, n'ayez aucune crainte. Ce seront les croyants qui vont rire et qui seront heureux de ce qu'Allah leur a accordé comme récompense et comme place de le Jannah, et en voyant le sort réservé aux personnes qui lui a causé du tort. Et ça, c'est une grande leçon que nous devons, dont nous devons nous inspirer, trouver la force de iman à travers les versets du Coran. Tu peux répéter ça? Je t'ai eu, non? Aïwa. Tu peux répéter ça? Trouver. On va faire comme ça à partir. Hein. Pas pour vous tester, hein, mais pour qu'on soit sûr qu'on retienne les grandes leçons. Trouver la force de l'iman à travers les versets. C'est-à-dire que les versets du Coran, et de façon plus précise, les promesses d'Allah, doivent être pour le croyant source de réconfort. C'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui. C'est le vrai soutien psychologique. C'est le vrai soutien spirituel. Que quand tu lis le Coran et que tu vois la promesse d'Allah, ça te permet de relativiser, de comprendre qu'est-ce qui te touche, pourquoi est-ce que tu vis telle difficulté, telle épreuve, et qu'est-ce que ton Seigneur Rabbul Izzah a promis le jour des comptes. Et c'est que ce que les croyants lisaient, « فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ » Oui ou non? On parle des scènes du Jannah. On parle des scènes du paradis, Allahumma ja'alna min. C'est-à-dire, là, ils sont, comme on dit en créole, ils sont dans la dure, je sais pas comment dire, de façon créole, il n'y a pas masculin, féminin. Ils sont dans le dur, voilà, il n'y a pas d'article même. Ils sont dans le dur, là. Ils sont humiliés, insultés, on demande aux familles de ne plus leur adresser la parole, de couper les relations, de ne plus leur donner d'argent, ni rien du tout. Ils sont dans de telles difficultés, mais ils sont capables, bi'idhnillah, de se projeter vers l'au-delà et les promesses d'Allah, et du coup, ils avancent. Le cœur apaisé. Hada. Naam. Le point suivant que Al-Mubarak Fawri, rahimahullah, cite, donc parmi les tentatives de Quraysh pour lutter contre la da'wah du prophète alayhi salat wa salam, déformer les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et faire circuler de fausses informations, c'est-à-dire des accusations infondées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre son message, et je lis, amplifier tout cela au point que les gens ne puissent plus avoir une compréhension saine de la foi. C'est ce qu'on appelle tout simplement de la désinformation. C'est pas nouveau, hein? C'est pas, j'allais dire le nom des chaînes, c'est pas quelques chaînes de télé privées qui sont célèbres aujourd'hui pour leur position contre l'islam qui ont inventé la désinformation. Non! La désinformation a toujours existé. Les Quraysh étaient des pros de la désinformation. D'accord ? Ils faisaient circuler, comme on vient de le lire, on ne va pas répéter la même chose, des rumeurs, en fait, le contraire du message. Et ils faisaient en sorte que leur désinformation parvienne à toutes les tribus arabes. Et ils avaient un objectif, ou alors plutôt quelque chose qui était prioritaire pour eux, c'était que cette désinformation arrive aux tribus arabes avant le début du pèlerinage, du Hajj. Parce qu'ils savaient que pendant le Hajj, toutes les tribus arabes allaient venir et le prophète alayhi salat wa salam allait prêcher auprès de toutes ces tribus, arabes. Naam. Parmi les versets que Mubarak Fawri rahimahullah a cité, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ou d'autres versets comme وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Je traduis. Et il dit à vieille sornette, la traduction est lourde, hein, qu'il s'est fait mentionner par écrit et qu'on lui récite matin et soir. Et le deuxième verset, ce n'est là qu'un mensonge qu'il a fabriqué de toutes pièces et où l'ont aidé d'autres gens. Et d'autres versets comme c'est un être humain, innama yu'allimuhu bashar, c'est un être humain qui l'inspire et rien d'autre. Ce qu'il voulait véhiculer comme message à l'attention des tribus arabes, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vous raconte là, les versets, ça vient pas de lui ça. C'est qu'il y a quelqu'un, il a un confident, un référent, un ami proche, un ami intime, quelqu'un qui a un niveau de connaissance qu'il voit régulièrement, ils se rencontrent et c'est lui qui lui dicte ses paroles, ses belles paroles. Et donc quand il vous récite ce qu'il appelle la révélation, c'est en fait ce que quelqu'un, innama yu'allimuhu bashar, ce que quelqu'un lui a enseigné. on lit là ces versets, on les écoute et tout. Mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le prophète alayhi salat wa salam vivait ce genre d'accusation? C'était quelque chose de très difficile pour lui alayhi salat wa salam, mais il s'en remettait à Allah azza wa jal parce qu'il connaissait l'importance de la patience et du bon comportement en toutes circonstances. Ce qui fait que, et on verra plus tard et tout le temps même, très souvent, que jamais les Quraysh n'ont eu quoi que ce soit à dire à propos du comportement du prophète alayhi salat wa salam. Il ne s'est jamais emporté, il n'a jamais perdu patience, il n'y a jamais eu un moment où, comme on dit, ils l'ont poussé à bout. Et qu'à un moment donné, il craque et il prononce tafloa des paroles, il insulte ou autre chose. Na'oud billah, jamais de la vie. Le prophète alayhi salat wa salam avait cette réserve et cette noblesse de caractère qui fait qu'il avait un contrôle complet sur ses paroles, sur ses pensées. Même ses pensées, parce que malgré la tristesse, il savait s'en remettre à Allah Azza wa Jalla. On continue, on avance. Troisième usloub, troisième façon de procéder des Quraysh, je lis, comparer le Coran aux fables des anciens. Aux fables des anciens. Et là, il y avait une personne qui s'appelait An-Nadr ibn al-Harith. An-Nadr ibn al-Harith, c'était un polythéiste. Et il avait un double discours, mais très perturbant. D'un côté, il disait aux gens, je lis un peu, hein, que ce que dit cet homme a grandi parmi vous, ça a toujours été le plus sincère, le plus digne de confiance de cette cité. Il est en train de prêcher une foi qui est totalement étrangère à tout ce que vous connaissez. Mais, et je lis le passage, c'est pourquoi vous l'avez dénoncé tour à tour comme étant un sorcier, un devin, un poète ou même un démon, quelqu'un de fou, na'ouz billah. Je jure par Allah, je jure par Dieu. Vous savez, les Arabes avaient l'habitude de jurer par Allah, d'accord? Parce qu'ils croyaient en Allah, ils croyaient en d'autres divinités aussi. Je jure par Allah qu'il n'est rien de tout ça. À la différence des sorciers, c'est pas sa façon d'agir, il ne ressemble pas à un devin, il n'est pas un poète, il n'est pas fou. C'est-à-dire que le discours de An-Nadr ibn al-Harith était très ambigu. En fait, il n'était pas bête, hein. Il n'était pas tout simplement hypocrite ou deux visages, non. C'était une personne d'une grande intelligence, mais qui avait une approche millimétrée pour essayer de contrer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il aborde les gens en disant que c'est pas une mauvaise personne, c'est pas un menteur, c'est pas un sorcier, c'est pas un devin, c'est pas tout ce que vous dites, non, c'est quelqu'un de très bien. Et il venait au discours et au prêche du prophète alayhi salat wa sallam, et ce que j'ai oublié de préciser, Moubarak dit qu'il a appris les traditions des rois de Perse et les récits de Rustum, ainsi de suite. C'est quelqu'un de très cultivé. Quelqu'un de très cultivé. Il a appris tous les récits, la culture perse. Et ce qu'il faisait, je lis, il suivait pas à pas le prophète alayhi salat wa salam lors de ses déplacements et lorsque ce dernier allait prêcher la foi nouvelle. Il vit en programme. Il venait au programme, au prêche du prophète alayhi salat wa salam, mais dès que le prophète alayhi salat wa salam avait terminé, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa place. Quand il a fini, il dit « Maintenant, c'est mon tour. » Et il commence à raconter d'autres choses en rapport avec la culture perse, les fables, des contes, des récits des Perses. Et quelle était son intention? Son intention, c'était de faire croire aux gens que voilà, lui, il vous parle de certaines choses, il raconte, ce sont des fables. Et moi aussi, j'ai des fables. Il essayait de le contrer sur l'éloquence et le contenu du message en le vulgarisant et en essayant de persuader les gens qu'il raconte des choses, des histoires, ça vient de lui, mais c'est très beau ce qu'il dit. Moi aussi je raconte des histoires, c'est très beau, ça vient de moi. Et à la fin il demandait, quelle histoire vous avez trouvé plus jolie? C'est-à-dire qu'il voulait, je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, il voulait désacraliser le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le descendant du niveau spirituel, il ne voulait pas qu'on mette l'étiquette ces révélations d'Allah. Il voulait aligner sur le même niveau que ces récits en disant voilà une histoire et voilà la mienne. Et à la fin, quelle histoire était la plus belle? C'était sa façon à lui de discréditer le wahi du prophète alayhi salat wa salam. Mais vous pensez une seconde que les gens allaient tomber dans le panneau. Toutes ces tentatives des Quraysh, comme on l'avait dit il y a deux semaines ou plus, il y avait des tentatives un peu gros doigts, un peu grossiers, des approches totalement brouillons, mais il y avait des frappes chirurgicales aussi, comme c'était le cas de An-Nadr ibn al-Harith. Et vous savez, l'approche de An-Nadr ibn al-Harith, ça me rappelle le courant, le mouvement qu'on appelle les Mustashriqin. On en a déjà parlé, traduit en français par les orientalistes. Les orientalistes, ce sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, d'accord, qui sont souvent athées et qui étudient le Coran, le tafsir, comme nous, qui étudient la parole du prophète, qui vont lire Bukhari, Muslim, la totale, hein, ils vont lire les hadiths, ils vont apprendre la religion, mais pour une mauvaise intention. Leur but, c'est d'apprendre et de mettre le doute en citant des versets, mais de façon contradictoire, en essayant de mettre en avant l'opposition, alors qu'il n'y a aucune opposition. Mais comme ils ont cette finesse d'esprit, ils essaient de manipuler les gens. Et je ne veux pas m'étaler, ils sont en train de fermer, et ça me stresse légèrement. Je ne veux pas m'étaler, mais il y a un de ces orientalistes, un Finlandais, qui s'appelle Fiensing, je ne sais pas du tout la prononciation, je pense qu'en finlandais ça se dit différemment, je le dis avec l'accent chinois, d'accord. Il a rédigé une encyclopédie de hadith, c'est exceptionnel. Personne n'a fait comme lui dans l'histoire. Une encyclopédie de hadith basée sur la première lettre de chaque hadith. C'est-à-dire qu'il a étudié tous les hadiths qui existaient. Il n'était pas musulman. Il a pris tous les hadiths qui commencent par la lettre Alif. Il a mis donc Alif, volume 1, tous les hadiths. Par exemple, Innama al-a'malu bin-niyyat. Ça commence par Alif, Innama, aywa. Lettre Ba, tous les hadiths, et ainsi de suite. Et il en a fait, j'ai cet ouvrage chez moi, si vous voulez que j'amène, non, j'aurai mal au dos comme un noir, c'est pas possible. C'est comme ça. Fiensing. C'est pas un chinois, c'est un finlandais, je répète. Et le khidma, c'est-à-dire que des fois, hein, y a des gens qui veulent porter atteinte à l'islam et Allah change les choses. Ce qu'il a fait pour contrer l'islam est devenu une référence. Quand vous cherchez un hadith, que vous ne le trouvez pas, vous regardez le livre de ce finlandais et vous savez où est la référence. C'est devenu un khidma pour le din. Allah a changé les choses. Bref, je ne m'étale pas trop. Donc, ce mouvement, les orientalistes, ils ont un discours, parce que des fois, ils écrivent des ouvrages élogieux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, ne soyez pas dupes, ne vous laissez pas piéger par leurs écrits. Ils disent, ils finissent par dire que le prophète, que, non, pas le prophète, que Mohammed était un grand homme, un dirigeant exemplaire, un chef, un leader, et ainsi de suite. L'objectif, c'est juste de ramener toutes ces qualités à un niveau humain comme d'autres, éloquent comme, ça c'est moi qui dis, hein, éloquent comme Voltaire par exemple, un leader comme un tel et un tel, en enlevant totalement la notion de prophète et de lien avec Dieu. Vous saisissez? Naam. Donc c'est, on retrouve cette façon, enfin, dans chez certains contemporains. Naam. On continue. On en est à combien de temps? Si on a fait 20 minutes, on arrête. 18 minutes, non, encore 2 minutes. Autre tentative, tenter de dissuader le prophète alayhi salat wa salam de demeurer fermement attaché à ses principes. Allez, on va pas lire tout ça, c'est un peu long. Ça, c'était une approche un peu, j'allais dire maladroite. C'était mal connaître le prophète alayhi salat wa salam et son amour pour le tawhid. Allez, je vais faire simple. C'est à cette occasion et c'est à vous de trouver quelle était leur approche. Écoute bien ça, Gina. C'est à cette occasion qu'Allah Rabbul Izzah a révélé « Qul ya yuhal kafiroun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma » Continuez. « Wa la ana a'abidun ma a'abattum, wa la antum a'abiduna ma a'abud » Avec la conclusion « Lakum dinukum wa liyadin » C'est le ma'na de « La ilaha » Et illallah, on le retrouve dans Surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Je ne rentre pas dans trop de détails. En Aqidah, les savants disent que qul ya ayyuhal kafirun, c'est le sens de la ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité. Et qul huwallahu ahad, illallah. Donc, alors quelle était leur proposition? Ils ont été voir le prophète alayhi salat wa sallam, dit, ça c'était un aveu de faiblesse, hein, quand ils ont vu qu'il n'arrêtait pas sa prêche et que dans toutes les tribus, les gens commencent à se convertir. Et qu'est-ce qui les faisait angoisser comme ça les Quraysh? C'est qu'avec le dîn al-tawhid, ils allaient perdre leurs acquis. Le contrôle sur la Kaaba, parce que les 360 idoles ne pouvaient pas cohabiter avec le monothéisme pur. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc ils savaient que si le tawhid rentre à Makkah, il n'y a plus d'idole. Plus d'idole, pénarol. Non, ça rime en plus. Faut noter ça. Plus d'idole, pénarol. Pour les Quraysh, parce qu'ils existaient entre autres, parce que c'est eux qui s'occupaient de Allat et Al-Uzza et ainsi de suite. S'il n'y a plus d'idoles, c'est terminé pour eux. Et ainsi de suite. Ça, on avait expliqué en introduction à Montreuil, ce serait long de reparler un peu de cette hypocrisie, de ce manque de sincérité. Ils voulaient leur position. Donc, leur tentative, c'est de dire au professeur sallam, voilà, tu adores Allah l'unique, nous reconnaissons Allah comme divinité, mais Allat, Al-Uzza, Hubal et tout, ce sont également, na'oud billah, des divinités. You make a deal. Ça, c'est moi qui dis, hein. On a un arrangement. Certains jours, on va tous adorer Allah avec toi. Et certains jours, tu te joins à nous avec tes musulmans, on adore nos statues. On partage. Ils croyaient quoi, là? Qu'est-ce qu'ils croyaient, là? Que le dîn, ça se partage. Que la croyance, ça se négocie. Que le tawhid, c'est à géométrie variable. Là, wallah. Et le prophète, alayhi salat wa salam. Et voyez, cette position, le fait de défendre le tawhid et de ne jamais négocier quand ça concerne tawhid et shirk, ça, c'était la qualité de notre prophète, alayhi salat wa salam. Et ça doit être notre qualité aussi. Quand on parle de croyance, il n'y a pas de divergence. Quand on parle de croyance, de aqida, on ne fait pas concession, on ne recule pas d'un pas. Il n'y a rien de plus important que le tawhid. Et le prophète alayhi salat wa salam, bien sûr, refuse leur proposition qui aurait pu tout arranger, vous savez. Le prophète n'était pas un homme qui faisait de la politique. Il aurait pu se dire que voilà, on en trouve un peu, on ne va pas rester sur nos positions. On va faire en sorte que voilà, on les écoute, on fait ce qu'ils disent. Au moins, on a tous les Quraysh de notre côté. Et peut-être que par la suite, ils vont voir que le tawhid c'est mieux et ils finiront par abandonner le shirk. Non. On ne cède pas 1% quand il s'agit de tawhid et de l'autre côté du shirk. Est-ce que le message est clair? Et c'est là qu'Allah Rabbul Izza a révélé qu'il y a eu al-kafirun. C'est bien, je disais ça, maintenant on fait sirat un peu partout. Je disais ça dans une autre assemblée qu'on avait vu la dernière fois dans un des dars de sirat un verset du tafsir qu'on a fait récemment. Innahu fakkara wa kaddar, thumma qutila kayfa, et ainsi de suite. Ça, on l'avait vu en tafsir. Et là, on a vu en sirat, ça nous permet de voir à quel moment Allah arrivé dans quelles circonstances a été donc révélé. Et donc là, on a قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هَذَا. Naam. On va s'arrêter à là, Inch'Allah, pour ce soir. Et comme on avait cité la dernière fois, en conclusion, comprenez bien qu'à chaque fois que les Quraysh ils avançaient de leur tentative de discréditer le dîn, d'humilier les musulmans, de donner une désinformation à propos de l'islam, on est persuadé que le prophète alayhi salatu wassalam n'arrêtait pas d'invoquer Allah, oui ou non, de demander à Allah son aide pour que sa mission réussisse, pour qu'Allah guide les cœurs, pour qu'Allah enlève la haine, l'animosité, la méchanceté du cœur de ses ennemis et qu'Allah change cette animosité en amour pour que ces gens viennent vers le tawhid, oui ou non. Sans le moindre doute, le prophète faisait doua matin et soir. Est-ce qu'Allah Rabbul Izzah n'était pas capable de changer ses cœurs? Kun fayakun. Celui qui a changé le cœur de Hamza quelque temps après et qui va changer le cœur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Allah était capable de faire souffler le vent de Hidayah sur Mecca, que toutes ces personnes acceptent la ilaha illallah et qu'ils finissent par aider le prophète sallam. Mais Allah en a décidé autrement. Allah a décidé que ces épreuves, ces difficultés vont perdurer. Et le prophète alayhi salat wa salam va être atteint personnellement par ces difficultés, parce que c'est là la sunnah d'Allah. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. C'est la sunnah d'Allah que quand on veut avancer dans le haq, il y a forcément des épreuves et des difficultés. Mais les épreuves et les difficultés, ça ne traduit pas le fait qu'Allah ne t'aime pas ou ne t'a pas accepté ou ne t'exauce pas aucunement. C'est la façon d'agir de notre Seigneur Azza wa Jal. Et Allah attend de ses serviteurs de la patience, de l'endurance, ihtisab ul ajr, la conviction que l'épreuve vient d'Allah et qu'il y aura une ouverture. Nama al usri yusra. Et qu'il y aura l'ouverture et les récompenses dans le delà. On va s'arrêter à là. Et la prochaine fois, ce sera mardi. Ce sera à Montreuil, hein, l'endroit où on fait sirat normalement. Ils vont être furieux, hein, qu'on a avancé sans. Pas au bon endroit, dans différents endroits, il faudra faire un récapitulatif. Et là, on va voir quelque chose de beaucoup plus complexe. Là, on restait encore sur des paroles, des insultes, ainsi de suite. Là, on va passer. Parce qu'ils vont se rendre compte à un moment donné que tout ça, ça ne sert à rien. On a beau essayer de les discréditer, de les humilier, de les insulter, mais à aucun moment il y a eu un seul musulman qui a décidé de quitter l'islam pour revenir vers la tradition, pour être protégé et sauvé. Non. Donc ils vont passer à la vitesse supérieure, ce sont les persécutions, at-ta'zib. Et là on va voir que c'est tout autre chose. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette assemblée, nous accorde tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah nous accorde les qualités de nos prophètes alayhi salat wa salam, la patience dans toutes les situations, et surtout le dernier message qu'on avait avec Qul ya ayyuhal kafirun, la fermeté de notre iman, de notre tawhid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.